Regard sur le christianisme, aux sources de notre foi, une émission proposée par Catherine Mann et Simon Martin. Des ombres planent sur le XIVe siècle, guerre de 100 ans, crise climatique, peste noire. L'Église universelle dirigée par Rome, elle aussi, est en crise. Certes, nous pouvons mettre en avant les abus de pouvoir fermement dénoncés par les humanistes, ce nouveau courant qu'ils voient jour en Italie avec Pétrarque ou Dante, mais n'oublions pas que la société est alors profondément croyante et attachée à l'Église. Or, pour bien comprendre ce qui est en jeu à cette époque, il sera peut-être nécessaire de préciser l'idée de royaume de Dieu sur terre et de projet divin pour l'humanité. Cela afin de comprendre en quoi les questions de papauté, de lutte contre les hérésies, mais aussi de quête mystique, sont essentielles pour l'époque et répondent, peut-être ou pas, au projet de la Bible et des évangiles. Et pour en parler, je suis en compagnie de Catherine Mann. Catherine, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Comme je le disais en introduction, pouvons-nous, au-delà des faits historiques qui nous intéressent en premier lieu dans cette émission, faire pour une fois un pas de côté, que je voudrais peut-être plutôt même en hauteur, et nous demander quel était à cette époque, mais peut-être encore aujourd'hui, le projet de l'Église qui répondrait au projet de Dieu pour l'humanité? Comment le concevait-on ou le conçoit-on encore aujourd'hui?
Oui, ça c'est une question à laquelle je suis totalement incapable de répondre avec simplicité, donc je pense que les projets sont à la fois très simples, c'est-à-dire que tout le monde soit gentil, que tout le monde s'aime et que la paix sur terre règne avec la justice. Et puis tout ça, c'est vraiment le plus élémentaire. Et puis après, vous avez toutes sortes de projets pour y arriver, et ceux-là sont d'une telle multiplicité que je serais totalement incapable de dire quel est le projet de l'Église.
Mais en tout cas, il y a ce couple politique-religieux qui parfois sont unis dans un effort commun, on l'a vu avec Saint-Louis par exemple, qui tentent de mettre quelque chose en place sur cette terre, dans une époque.
Oui, ce Saint-Louis est un roi qui est convaincu de sa mission divine. Donc il est convaincu qu'il doit mettre en pratique l'Évangile et qu'en tant que chef politique, si je peux dire, il a des responsabilités pour le peuple. Il faut que les dirigeants soient à l'écoute du peuple, soient responsables de faire régner la justice, d'éliminer la pauvreté, la misère, la souffrance. Il était complètement imprégné de ça, et quitte à parfois remonter les manches et se salir les mains lui-même, enfin, c'était, pour lui, l'évidence, c'est que le dirigeant est mis en place par Dieu, il a reçu une onction, il est un lieutenant du Christ sur terre. Mais à part Saint-Louis, vous savez, après lui, ça s'effondre quand même déjà d'une manière assez effroyable.
Parce qu'on le voit aussi dans des actes politiques qui pourraient paraître irrationnels, comme par exemple faire des croisades. C'était pas uniquement pour du pouvoir, ça avait une fonction sacrée évidemment,
quoi, symbolique très importante. Pour défendre les lieux saints, c'est pour maintenir l'Empire latin en Orient, c'est pour garder la présence du christianisme. Mais tout ça, c'est très simple. Sur un échiquier, on bouge des petits pions en disant voilà, nous allons, mais c'est que les autres sont pas d'accord. Parce que les musulmans... Si Dieu avait voulu ça, pourquoi a-t-il créé une religion après le christianisme? Parce que quand même, l'islam est né beaucoup plus tard. Qu'est-ce que c'est que... Et dans le monde, vous avez vu la place que prend l'islam de plus en plus, parce que c'est... Je ne parle pas de l'islamisme, mais oui. L'islam lui-même est une belle religion. De gens qui sont souvent empreints d'une grande mystique. Et si on avait voulu une religion unique, il n'y aurait pas eu de religion possible après. Alors on peut se dire qu'à une certaine époque, on voulait éliminer cet islam qui montait. Mais le fait est qu'il ne s'est pas laissé faire. Le fait est que, et que de nos jours, on peut toujours rêver d'un monde catholique bien rangé, où tout le monde est discipliné, gentil, obéissant, et persuadé de répondre à la volonté de Dieu. Mais le fait est qu'il existe la Chine où des gens ne sont pas d'accord, qu'il existe l'Inde où on est très différent, où c'est la science qui est en train de tout emporter. Il y a d'autres valeurs dans notre monde. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait semblant qu'elles n'existent pas ou on va les combattre ? La croisade est une espèce d'idée que, par la force, peut-être on va résoudre les problèmes. Mais qui a fait ces problèmes ? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu y est pour quelque chose ?
Est-ce qu'on pourrait trouver au moins un consensus dans le projet qui serait d'une Église unie, en tout cas ?
Au XIIIe siècle où on est, on a déjà perdu l'Orient. Oui. Là, on a perdu la moitié de l'Église, déjà, qui est en souffrance, justement, avec les Turcs, avec... le schisme, il y en a déjà eu un, ici, on en voit un autre, et on a, après, le schisme protestant. C'est des schismes. On veut l'unité du Christ, on prie pour l'unité de l'Église, on croit en l'Église une, et en même temps, dans les faits, elle se divise de plus en plus. Depuis les 2000 ans que Jésus était là, c'est fou. Je dirais presque que tous les ans, il y a une petite église nouvelle qui naît. Je ne parle pas des grandes églises, mais des petites qui sont pleines d'espoir de remplacer les grandes. Tous les jours, on entend qu'une petite secte, disons, germe et qui a l'idée qu'enfin, elle a tout compris et elle va résoudre tous les problèmes de l'église. Et arriver à l'unité de l'Église. Et tout ça en faisant une division supplémentaire. Ces contradictions-là, moi, je ne sais pas d'où elles viennent, et je ne sais surtout pas comment on pourrait les résoudre. Tout ce que je vois, c'est que dans l'histoire, il y a toujours eu ça.
Alors, revenons-en justement à notre histoire, celle du XIVe siècle, qui, en plus des divisions dont nous allons parler, se trouve dans un contexte difficile, avec la guerre de Cent Ans, qui commence en 1337, guerre de 100 ans, refroidissement climatique.
Et ça, l'homme n'y est pour rien.
L'homme n'y est pour rien. Et la peste noire qui va se rajouter là-dessus un petit peu plus tard. Ça crée un contexte.
Un peu comme aujourd'hui.
Anxiogène, j'imagine, pour la population.
Une pandémie et des problèmes météo. On est aussi dans ces choses-là. Tout ça affaiblit l'humanité et révèle encore plus les ambiguïtés, quoi. Mais en même temps, on peut se dire, c'est des petites positivités miniatures, mais la guerre de Cent Ans, c'est la mesquinerie absolue entre des rois qui visent la puissance, l'argent que porte un territoire et qui sont prêts à tuer tout ce qui habite dessus. Et en même temps, la peste noire a obligé des trêves. On n'avait pas le temps de se battre militairement, on devait se battre contre la maladie. C'est de l'ironie, c'est une positivité à petite échelle, mais je me dis que tous ces problèmes s'opposent les uns aux autres et nous obligent à peut-être faire des meilleurs choix. L'intérêt, par exemple, du refroidissement climatique et de la peste noire, l'agriculture s'effondre. Il y a des famines. Alors, il y a eu de la misère. La misère dans je ne dis pas que c'est rien du tout, hein, mais tous les milieux des cultivateurs et tous ceux qui étaient le servage de cette période qui était la fin de la féodalité. Les serfs sont obligés de travailler pour enrichir le... Tout le monde considérait que c'était normal que les pauvres travaillent pour que les riches soient riches. Je dirais que c'est peut-être encore comme ça aujourd'hui, hein, mais on ne le dit pas.
C'est un autre sujet.
Le fait que la main-d'œuvre s'est effondrée, on n'a plus le temps de faire des enfants, ou ils mouraient. Alors, quand vous avez beaucoup de gens à votre service, vous pouvez les manœuvrer en disant « Bon, tu seras moins payé, mais tu fais quand même, etc. » Mais moins il y a de population, moins il y a de main-d'œuvre, c'est fini. Ce n'est pas les seigneurs qui allaient faire le travail. Hein. Ils étaient prêts à se mettre à genoux pour avoir quelqu'un qui faisait le travail pour eux. Du coup, ils commencent à bien les payer, ils commencent à les chouchouter, ils commencent à leur donner des avantages. C'est toujours l'offre, la demande. Quand il n'y a plus assez de main-d'œuvre, ah ben on la chouchoute. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment on soigne les plombiers. Hein. C'est ça. Mais le côté positif de ça, c'est l'effondrement, justement, d'un système féodal qui était quand même abusif. Hein. L'exploitation de la paysannerie, c'était un abus absolu. Mais il faut que... Voilà, donc il y a toujours un côté positif aux choses les plus négatives. Et c'est ce qui est très difficile, à mon avis, de lire l'histoire, parce que tout dépend de ce qu'on regarde, avec quelles lunettes on les regarde, et à quel moment on le regarde. Il y a toujours une médaille et son revers, quoi.
Alors, parallèlement à cette fin, ce déclin de la féodalité, il va y avoir la montée en puissance, on l'a déjà vu, de la bourgeoisie et surtout du
coup,
milieu laïque.
Du coup, c'est ça.
De tout milieu laïque, de l'humanisme.
Alors, mais ça commence doucement, hein, quand même, très doucement.
Ça commence doucement. Mais alors pourquoi, dès le départ, cette méfiance entre l'Église et le monde laïque?
Ben parce que si vous voulez avoir le pouvoir sur les gens et que vous voyez qu'ils n'ont plus besoin de vous, ben suppose, prenons l'exemple de l'université. Au départ, les universités sont des œuvres d'Église et ce sont les clercs qui sont les enseignants des universités. Et de plus en plus dans les villes, ce sont des universités qui deviennent laïques, ce sont des professeurs qui enseignent. Et on n'a plus tellement besoin du clergé.
Ils enseignent pas forcément les bonnes choses alors.
Pas forcément. C'est tout le problème de... Est-ce qu'on éduque les gens pour qu'ils soient autonomes ou pour qu'ils soient obéissants? Ah, ça, c'est une question qui reste ouverte. Hein. Mais je pense que tout parent se pose la question à un moment donné. Tant qu'on fait obéir ses enfants, c'est pour leur bien. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils soient en croissance, il faut qu'ils soient... Mais il y a un jour où l'enfant vient vous dire « Je sais ce que je veux faire, j'ai assez, je vais faire ça ». Et je quitte la maison. Dans une famille, on comprend ça. Dans l'Église, ben, on a un peu plus de mal à le comprendre. La bourgeoisie, c'est finalement le résultat d'une bonne éducation. C'est le travail des prêtres qui ont amené l'école. Le fruit, c'est que les bourgeois sont maintenant... il y a eu toute la période des inventions, des machines, des découvertes. Le monde économique change, mais tout ça, c'est laïque. Ça veut dire que c'est une humanité qui commence à marcher toute seule et qui est moins dépendante du clergé. Alors il y a ceux qui sont contents de cette chose-là, puis il y a ceux qui ne sont pas contents et qui essayent justement de reprendre le pouvoir là-dessus.
Alors le pouvoir, parlons-en, nous l'avons vu le mois dernier, que les papes depuis Clément V sont installés en Avignon. Alors évidemment c'est pour... C'est une histoire aussi de pouvoir et de zone d'influence, puisque le pape Clément V, le premier à s'installer en Avignon, est tout à fait soumis à Philippe le Bel.
Le problème pour nous, c'est qu'on regarde ça du côté France. Nous sommes ici, une radio France. Mais il faudrait en même temps, ça c'est pas dans mon registre possible, voir ce qui se passe en Italie.
Oui, évidemment, qui voit pas les choses de la même manière.
Mais surtout, le monde politique italien, c'est quelque chose de tout à fait particulier à cette époque-là. C'est des grandes familles puissantes qui possèdent des villes, des princes, des ducs, et tous s'entretuent, si je peux dire. Les luttes de pouvoir sont d'une violence terrible. Et le pape est au milieu de tout ça. Il y a les états pontificaux.
Qui dépendent, j'imagine, du bon vouloir aussi, peut-être des souverains qui sont autour.
C'est-à-dire que souvent, il se fait attaquer.
Oui, c'est ça, oui.
Moi, j'ai été surprise en préparant cette émission de tomber sur une photo, j'allais dire une image d'un pape, je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais à cheval. Et ça, c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, mais ce sont des chefs d'État militaires.
Ils devaient se défendre aussi, oui.
Et on oublie ça. Et en fait, quand ils arrivent à Avignon, c'est pas tellement parce que Philippe le Bel les manipule. Ça, c'est aussi le résultat du fait que c'est invivable, l'Italie. Et que régulièrement, les conflits sont tels que le pape est obligé de fuir. Et donc, il est aussi accueilli en Avignon, si je peux dire.
Alors, les papes se suivent et ne se ressemblent pas.
Ah, ça, comme toujours.
Nous allons nous arrêter sur quelques-uns. Prenons Benoît XII, qui est le troisième pape en Avignon. Et alors lui, contrairement à ce qu'on a dit justement, parce que donc les papes ne se ressemblent pas, est plutôt tourné vers une vie austère et monacale.
Mais c'est quand même un bâtisseur et il a continué à... mais c'est toujours la même chose. On peut être soi-même dans une option extrêmement austère et vouloir le plus beau pour Dieu et pour l'Église.
Oui.
C'est pas interdit.
Ça coûte aussi cher.
C'est puisque c'est pas pour moi, c'est pour la succession des apostoliques. Donc, enfin, et puis bon, montrer une certaine. Ça marche pas. L'autorité ne marche pas sans une certaine pompe. Le peuple est sensible. Vous pensez à la reine d'Angleterre, voilà. Il faut qu'il y ait un apparat, sinon l'autorité ne marche pas.
Oui, ça frappe l'imagination.
Donc
dans
même
le sens
les papes
terme,
les plus austères se sont toujours soumis à cet apparat. Donc ce pape-là a quand même bâti le palais des papes. Hein. Enfin, c'est-à-dire que chacun ajoute un bout. Mais c'était quand même un cistercien et qui lui s'occupait plutôt de redressement des ordres religieux. À cette époque-là, c'est toujours le problème des franciscains que moi je trouve un dramatique.
La scission des franciscains ?
Ben surtout la façon dont les franciscains les spiritualisants, enfin ouais. les plus exigeants dans la pauvreté évangélique ont été brûlés, vifs, mis en prison. Ils ont été pour des raisons de foi. Et qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre que d'essayer d'avoir une radicalité de pauvreté pour suivre l'Évangile.
Et Saint François et leur fondateur, oui. Oui.
Et c'était insoutenable pour la papauté. Pour même, on n'aimait pas que l'Église soit pauvre. Oui, un petit peu pauvre, mais pas trop. Et ils étaient reçus, compris comme des fanatiques hérétiques. Et ça dure des années et des années. Et ça revient quand on dit que ce pape fait des réformes religieuses, c'est entre autres pour éliminer ces franciscains trop les spirituels. Quoi. C'est triste, moi, je trouve. Mais bon, je comprends aussi. L'argent est quand même toujours le nerf de la guerre ou de la non-guerre. Et ça, c'est hélas vrai aussi au Vatican et dans l'Église.
Alors, les papes, hier, comme aujourd'hui, déjà avec le pape François, se mêlent aussi de politique et de donner leur avis en politique. Et ce pape Benoît XII fait des tentatives pour arrêter la guerre, mais bon, sans efficacité.
C'était pas sans
grande efficacité, quoi.
Non, c'est. De toute façon, ces guerres. C'est justement, c'est des guerres d'argent et de pouvoir.
Oui, mais parfois l'Église a pu servir de médiateur, ou en tout cas, a tenté des choses. A tenté.
Oui, mais enfin, c'était plutôt brutal, hein, quand même, à cette époque-là. On faisait pas tellement de cadeaux. C'est, quand on veut conquérir.
Alors, le pape suivant, Clément VI, eh bien, on retombe dans quelque chose de...
Alors, lui, c'est le contraire,
plus dépensier.
Autant
plus...
le précédent était austère et monacal, autant celui-là, il est pour la puissance papale et ça se marque dans le luxe de sa propre vie. Et puis, le dépenser sans compter. Hein, on a encore au Vatican aujourd'hui quelques cardinaux qui considèrent qu'il faut vivre dans le luxe. Parce que la beauté artistique...
Oui, parce que ça se justifie tout à fait, bien sûr.
Oui, encore une fois. Et puis le banquet, les fêtes, ça coûte très très cher. Mais en même temps, quand on vous dit qu'au ciel, c'est le banquet mystique et que l'image du banquet est partout dans l'Évangile... Donc quand on tout trouve toujours une bonne justification, n'empêche que il dépense plus d'argent qu'il n'en a.
Alors il y a une manière aussi politique de tenter de diriger l'Église avec la nomination des cardinaux évidemment. Un pape français nommer des cardinaux français,
c'est
ça permet de s'assurer une certaine stabilité.
Oh, oui. Et puis surtout la protection des rois de France.
Et la protection des rois de France.
Il faut alors on prend la famille, hein, ben c'est sûr. C'est ce qu'on appelle le népotisme. On nomme toujours le neveu de quelqu'un qui est en rapport avec quelqu'un. L'Église a beaucoup fonctionné comme ça. Je ne sais pas comment elle fonctionne aujourd'hui pour les nominations, mais très longtemps, les papes étaient choisis dans les familles. Alors là, on est dans les familles françaises. Après, il y aura la réaction dans les familles italiennes, mais ça ne change rien. On choisit autour de soi les gens qu'on connaît. Je crois que tout le monde fait ça, même aujourd'hui. Tout marche par relation, par réseau. On ne va pas prendre quelqu'un qui ne vous paraît pas tout à fait conforme à votre manière de vivre et de penser. On va chercher le cousin. Alors là, il y a eu beaucoup, à cette période-là, de nominations de cardinaux français. C'était vraiment l'arme.
Ouais. Alors Clément VI, c'est lui qui va affronter, le début de la peste noire.
Oui, et on dit beaucoup de bien de lui, de dévouement et de...
Qui prit la défense, entre autres, des Juifs accusés de l'épidémie.
Oui. Il a fait une bulle, je ne sais plus quel nom avait cette bulle, mais enfin...
On n'en a pas parlé, mais l'antisémitisme dans la chrétienté...
Il reste
toujours présent depuis le début.
Ça a toujours été compliqué. La soupape. C'est quand on a besoin d'argent. On a vu, Philippe Le Bel a besoin d'argent, ben on va expulser les Juifs et leur prendre tous les biens. C'est toujours une solution.
Les Juifs... reste à l'époque ceux qui ont crucifié le Christ, en plus, dans la tête.
Aujourd'hui aussi, c'est ce qu'on dit.
On est peut-être un peu revenu à ça grâce à Vatican II, mais...
J'espère.
On l'espère. Cette peste noire, cette pandémie, va faire environ 35 millions de morts en Europe. C'est immense. Je crois qu'à Londres, c'est la moitié de la population qui périra.
Oui, c'est 40 à 50%. En gros, c'est à cette période-là, c'est vraiment...
Donc, bah, notre petit Covid, finalement, c'est pas grand-chose.
C'est rien du tout. Dans le monde entier, là, la peste... Parce que la peste, on sait pas très bien, on cherche toujours d'où elle est venue exactement. Elle peut être venue d'Afrique du Nord ou d'Asie, enfin, elle est venue...
Oui, puis grâce à la mondialisation, grâce aux bateaux marchands.
Les bateaux.
Bien sûr.
Et ce qui est amusant, si je peux dire, enfin, Jacques Le Goff décrit l'arrivée des bateaux à Marseille, enfin, dans le... Et donc, les quarantaines, on mettait les bateaux en quarantaine en disant attention, il faut absolument se protéger. Et bien, la quarantaine, ça ne marchait pas.
Il y a toujours une faille.
Les gens comptaient leurs sous en disant on a besoin des marchandises qui sont dans les bateaux, alors on allait la chercher en douce, etc. Et on transmettait la maladie. C'est la réalité. Il y a toujours la perfection théorique et puis la pratique qui est... On obéit à des pulsions qui sont autres, l'argent. Et de nos jours, avec le petit Covid, il faut qu'on fasse la fête, il faut qu'on fasse... Bon, bah, tant pis, c'est comme ça.
À l'époque, la population pensait que Dieu était au cœur de l'histoire, que Dieu faisait aussi l'histoire et participait à l'histoire. Peut-être des choses dont on a un peu plus de mal à comprendre aujourd'hui, mais c'était sûrement très présent à l'époque. Alors comment voyait-on ces crises, la peste noire ou encore même ces refroidissements climatiques? Est-ce que c'était un châtiment?
On cherche des coupables. C'est pour ça que les Juifs ont connu en Europe de l'Est à cette époque-là déjà des pogroms incroyables, quoi. S'il y avait des morts et des maladies, c'est toujours la faute des Juifs. Et alors, ceux qui sont un petit peu au-dessus de ça, ils vont chercher d'autres causes, des causes spirituelles. Alors, toutes les élucubrations sont sorties aussi à cette époque-là, quoi, de deviner la magie, enfin, d'essayer de trouver des solutions.
Et puis des pénitences qui étaient organisées.
C'est encore autre chose. C'est prendre le mal sur soi, expier. S'il y a du mal, nous avons péché. C'est quand même biblique. Chaque fois que le malheur s'abat...
Il y a une raison.
La raison, c'est toujours nous avons péché.
Nous avons trahi du regard de Dieu, évidemment.
L'alliance avec Dieu. Et finalement, il faut... Donc, mais alors, les pénitents, ils sont assez effrayants à cette époque-là. Plus la maladie est terrible, plus les pénitents sont courageux. Mais alors, il y avait cette fameuse manie dansante. Là.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Les gens dansaient jusqu'à mourir. on ne sait pas très bien ce que c'est, mais c'est une espèce de folie. Les gens étaient pris de folie de danse, danser, 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 danser.
Ah oui.
Jusqu'à l'épuisement total, jusqu'à... C'est une forme de pénitence, en fait. Ça a donné sur les danses macabres.
Danses macabres, oui.
Des choses comme ça. Mais enfin, on ne sait pas très bien comment ça germe, tout ça. Dans des situations incroyables, il y a des réactions incroyables.
Et puis, on peut quand même imaginer assez facilement qu'il reste des résurgences de religions un petit peu païennes dans les campagnes, dans les coins reculés comme la Bretagne, voilà. Où on le voit encore aujourd'hui. Donc, on imagine bien qu'à cette époque-là.
Il y a eu des résurgences de magie pour contrer le sort, le mauvais sort, quoi. Dans les animaux, entre autres, étaient souvent les corbeaux, les chats, enfin, on tuait dans des petites cérémonies un peu. On croyait que ça allait faire sortir le mal de tout ce qu'on invente.
Toute chose contre laquelle l'Église luttait aussi.
Bah, l'Église essayait de survivre au milieu de tout ça, c'est pas facile, bien sûr. Bien sûr, elle était un peu consternée de toutes ces superstitions. C'est pour ça que sans arrêt, il faut, entre les grands problèmes, réformer toujours, revenir sur les réformes. On se demande toujours, quand on lit l'histoire des papes, toujours on se dit, ben, il y a encore à réformer. Ben oui, parce que ça s'effondre régulièrement. Et il faut sans arrêt remettre sur la table les problèmes et réformer les aberrations.
Le pape suivant, ce sera Innocent VI, le cinquième pape en Avignon, comme vous dites, un réformateur.
Aussi, oui. C'était de nouveau plutôt un austère, un intellectuel, très, très près de ses sous et pas dépensier du tout. Mais un de ceux qui a le plus persécuté les franciscains. C'est très. On peut à la fois être économe et ne pas aimer les excessifs de François.
Et voyons peut-être le vent tourner, en tout cas cherchant à se protéger. C'est lui qui construira les murailles autour d'Avignon également. En tout cas, il commencera les.
C'est surtout parce que qu'est-ce que vous voulez, une époque où il y a autant de maladies, de guerres, et puis la guerre de 100 ans, c'est pas tendre. Hein, c'est-à-dire que. Les militaires, ils se payaient en pillage.
Ouais, bien sûr.
C'est terrible. Donc, les murailles, elles sont aussi là pour qu'il y ait un peu de sécurité à l'intérieur du palais. Hein. Mais ce pape-là, la Sainte Brigitte a dit de lui qu'il était le persécuteur des brebis du Christ. Et Brigitte a quand même été canonisée. Donc, une sainte peut aussi partir en guerre contre un pape.
Sainte Brigitte de Suède,
Brigitte c'est ça, de voilà. Suède, oui. On a deux saintes dans cette époque-là, c'est Catherine de Sienne et Brigitte de Suède.
Catherine de Sienne qu'on verra plus tard. Mais des saintes qui sont à la fois des grandes mystiques et en même temps qui tutoient, entre guillemets,
les papes. Qui n'ont pas la langue dans leur poche et qui osent affronter. Je ne sais pas comment c'est possible aujourd'hui, si on avait quelque chose à dire du pape, on serait vite massacré. Mais bon, là, elle s'est vraiment fâchée. Pour défendre les franciscains, mais ça.
Catherine, notre émission touche à sa fin. Un grand merci et je vous donne rendez-vous le mois prochain.
Eh bien, merci à vous. Au revoir à tous.